important sur le sujet. Alors, on est ici pour parler d'une question de société, mais la consommation de drogue, l'usage des drogues, ça n'est pas un phénomène spécifiquement contemporain. On connaît par exemple le fait qu'il y ait des prises de substances psychotropes à travers l'histoire dans certaines sociétés primitives, dans l'Antiquité grecque, romaine, etc. Souvent, cette prise de drogue accompagnait des rituels religieux, elle était encadrée par un certain nombre de pratiques sociales. Beaucoup plus récemment, on sait aussi que la prise de drogue, l'usage de produits psychotropes est plutôt apparu comme une pratique individuelle. Alors je pense au 19e, au 20e siècle, où on voit des dandys, des personnalités artistes, romantiques, qui s'essaient à ces produits pour parcourir une sorte de voyage, d'expérience personnelle. C'est de l'ordre d'une aventure intérieure, et c'est aussi, par ailleurs, quelque chose de politique, une attitude qui veut subvertir l'ordre moral ou social. Et donc, ça existe au XIXe siècle chez certains poètes. Par exemple, Théophile Gautier disait que le véritable poète boit de la gaieté, fume de l'oubli et mange de la folie. Alors, ça nous fait penser peut-être, nous, plus à l'attitude des rockstars du XXe siècle, qui nous sont plus proches, les pratiques psychédéliques des années 60, dont la Bible est le livre d'Aldous Huxley, Les portes de la perception, qui a été créé en 1954. Et puis l'hymne célèbre de Lou Reed, Héroïne, qui dit, alors pardon pour l'accent anglais, I've made a big decision, I'm going to nullify my life. J'ai pris une grande décision, je vais anéantir ma vie. Alors je vais m'appuyer sur cette phrase parce qu'elle est intéressante, mais elle montre que cette prise de drogue, c'est une affirmation de la liberté. C'est un voyage intérieur, personnel, et c'est une volonté de subvertir l'ordre social et moral. Et il me semble que cette attitude-là, elle est en contraste avec notre vision actuelle de ce qu'est un drogué, de ce que fait un drogué, et notamment, d'ailleurs, le titre de la soirée de ce soir, il est évocateur, puisqu'on parle de la drogue en relation avec l'addiction, ou les addictions. Alors, on va voir pourquoi. C'est notamment la connaissance des neurosciences, les progrès en neurosciences, la connaissance du cerveau qui nous a amené à associer la drogue avec toutes les addictions. Mais du coup, cette vision du drogué comme victime et non plus comme être libre qui choisit de faire une expérience personnelle, ça va changer aussi la vision politique du drogué et les décisions politiques à son sujet. Alors c'est lié à évidemment une massification du phénomène au XXe siècle, à l'apparition du sida aussi, d'un certain nombre de pathologies annexes à la prise de drogue, et donc on a considéré que le toxicomane, en tant que victime, doit être accompagné. Donc dans les années 80-90, on prescrit des médicaments de substitution comme la méthadone, on distribue des seringues stériles, etc. Donc on voit ce glissement, et je vais m'appuyer sur ce glissement-là pour poser une question, la question de la liberté, justement. Est-ce que l'usager de drogue, c'est un être libre, un aventurier? Est-ce qu'il choisit, ou est-ce que c'est une victime? Évidemment, c'est les deux à la fois, et c'est ce qui me semble intéressant d'interroger. Donc philosophiquement, on peut se demander... si c'est un choix libre que de choisir d'annihiler sa propre liberté. Voilà. Comme le dit la chanson de Lou Reed, j'ai décidé d'anéantir ma vie. Est-ce que cette décision de ne plus être libre, est-ce que cette décision qui est au point de départ de la prise de drogue, de prendre des produits qui peuvent dériver vers une addiction et donc... une nécessité qui supprime la liberté, est-ce que cette décision-là est une décision libre? Évidemment, c'est un enjeu important, puisque la liberté, l'acte volontaire, c'est ce qui va définir c'est ce qui va définir la responsabilité morale, et la responsabilité juridique ou pénale de l'acte. Voilà. Donc, cette question de la liberté, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est une nécessité? Je vais l'aborder à travers trois moments. Tout d'abord, définir ce que c'est qu'une addiction, définir le phénomène de l'addiction, essayer de le définir. Et puis, ensuite, nous focaliser plus spécifiquement sur la personne du drogué. Qui est le drogué? Avec cette question en arrière-fond, qu'est-ce que c'est que cette liberté qui choisit de se détruire en tant que liberté? Et le problème, en fait, ce sera, est-ce qu'on peut librement choisir de se nuire à soi-même? Et enfin, pour déboucher dans un troisième temps, qui sera peut-être un peu plus rapide, sur la question de la loi. Dès lors, que doit faire la loi? Faut-il interdire? Est-ce efficace? Et si ça n'est pas efficace, quel sens cela peut avoir malgré tout? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? Addictus, ça veut dire esclave pour dette. Bon, l'addictus dans l'Antiquité, c'est l'esclave. Et qui, d'ailleurs, choisit cet esclavage pour rembourser une somme d'argent qu'il doit, qu'il n'est plus en mesure de rembourser. Donc, il y a bien, au départ, ce choix qui se transforme, enfin, cet esclavage apparemment volontaire qui se transforme en contrainte totale. Alors, j'ai parlé des neurosciences, donc la connaissance des fonctionnements cérébraux, je vais aller très vite, mais c'est important quand même de voir que les progrès de la connaissance du cerveau ont modifié notre vision du phénomène de la drogue. Donc, déjà, l'addiction, du fait du progrès des sciences, elle a été cataloguée comme une pathologie neuropsychiatrique. Donc c'est classé dans le DSM, le manuel diagnostic des troubles mentaux, comme un comportement caractérisé par un usage compulsif, un manque, le craving, bon, c'est le terme qui est utilisé en général, l'envahissement de la vie courante, la tolérance aux produits qui augmente, et donc une prise croissante aussi de produits, de doses. Donc ce comportement, il s'explique au niveau neurologique. Alors si ça vous intéresse, c'est Jean-Didier Vincent qui lui explique dans un chapitre qui explique les recherches actuelles, hein, les conclusions actuelles sur la question dans Voyage extraordinaire au cœur du cerveau. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir de plus près, mais en gros, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des processus opposants, c'est-à-dire que nos actes, ils sont motivés par la recherche de plaisir et la fuite de la souffrance ou de la douleur. Et les deux affects se compensent, c'est-à-dire plus il y aura un plaisir ressenti, plus il y aura par ailleurs, une fois le plaisir disparu, une souffrance. Le renforcement de la souffrance va entraîner une attitude de recherche intensive du plaisir, et puis arrive un moment où la souffrance devient plus forte, et donc la recherche de plaisir, la quête de plaisir frénétique et envahissante. Et donc, l'idée, en fait, qui est là, c'est que pour ces produits qui procurent, que ce soit d'ailleurs l'alcool ou les drogues, on va en reparler, ou même d'autres types de produits ou de phénomènes, eh bien, la souffrance, elle est au cœur du plaisir dès le départ. Parce que c'est des processus opposants, mais qui ne se compensent pas, justement. Donc le plaisir va entraîner une souffrance qui elle-même va entraîner une recherche du plaisir qui lui-même va entraîner une souffrance encore plus importante. Donc la question qui est posée à partir de là, c'est est-ce que toutes les addictions se valent? Est-ce qu'on doit mettre sur le même plan toutes les addictions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les drogues, et d'ailleurs donc dans ce chapitre, Jean-Didier Vincent met sur le même plan les drogues, l'alcool, drogue dure, drogue douce, mais surtout aussi les addictions au sexe, les addictions à Internet, les addictions au gras, les addictions au sucre, etc. Et on a observé ces phénomènes neurologiques pour tous ces produits ou tous ces phénomènes. Donc on voit que la distinction qui devient opérante, ça n'est plus une distinction entre substance toxique et substance non toxique, mais plutôt entre usage modéré et usage addictif, usage contrôlé et usage addictif. Alors ça donne lieu à des analyses sociologiques. En fait, ce phénomène de l'addiction généralisée, si vous voulez, qui n'est plus une addiction seulement à des produits psychotropes, c'est un phénomène périphérique de la société de consommation, une société d'abondance propose des plaisirs possibles en abondance à ses membres. Et du coup, cette abondance, elle dérègle ce qui est appelé par la sociologie les circuits de la récompense. C'est-à-dire que, selon la psychologie de l'évolution, nous avançons, nous posons des actes parce que nous sommes motivés par une recherche de récompense. Bon, c'est très infantilisant, on pourrait en discuter, mais et par une fuite de la punition, de la souffrance. Et donc, cette société nous propose beaucoup trop de plaisir, donc ça va modifier l'équilibre normal qui existe normalement entre la récompense et la punition. Donc, c'est comme ça que le phénomène de l'addiction, il est vraiment analysé comme une pathologie de nos sociétés de consommation abondantes, riches, voire écœurées par leurs biens. Alors, on peut se demander enfin, sur le plan philosophique, si l'addiction, donc après avoir vu le fonctionnement cérébral, après avoir vu c'est une cause possible au niveau sociologique, on peut se demander si dans le fond, et ça va nous amener plutôt au point de vue de l'usager, l'addiction n'est pas tout simplement un mauvais calcul, au sens où les philosophies du plaisir, la plus célèbre, la plus connue étant la philosophie épicurienne, la philosophie de l'Antiquité, distinguent bien entre les plaisirs qui ne doivent pas être choisis parce qu'ils entraînent une souffrance trop importante par rapport au plaisir qui sera dont on jouira, et des plaisirs qui peuvent être choisis parce qu'ils permettent un équilibre entre la souffrance et le plaisir. Donc Épicure, par exemple, distingue les plaisirs nécessaires, qui sont en fait les besoins qu'il faut satisfaire, dont il faut chercher la satisfaction, les plaisirs de leur vie de bien-être, qu'il faut rechercher mais pas toujours, avec modération, et puis surtout ceux qu'il faut fuir, les plaisirs non naturels et non nécessaires, comme le désir de gloire, le désir de richesse, parce qu'on ne contrôle absolument pas cette satisfaction-là. Et ces plaisirs nous rendent malheureux parce qu'ils peuvent nous procurer une souffrance supérieure à la jouissance. Et donc, voilà, la question c'est l'addiction, est-ce que ça n'est pas un mauvais calcul est-ce que ça n'est pas un mauvais calcul de la part de celui qui fait ce choix, donc un choix, mais un choix qui nous piège par une mécanique infernale qui agit au niveau du cerveau, mais aussi peut-être à des niveaux sociologiques. Voilà, donc la question que je pose maintenant, c'est est-ce que celui qui se drogue veut librement, et de quelle liberté peut-on parler dans ce consentement de départ qui est celui, évidemment, de la prise de drogue du drogué. Alors, en fait, pour comprendre quel est ce choix, quel est cet acte, le sens de cet acte, on voit qu'il y a un échec de ce qu'on a appelé les théories du choix rationnel en sociologie, enfin et en économie surtout. Donc, les théories du choix rationnel, je rappelle, c'est un postulat des sciences sociales et surtout de l'économie en fait, qui est issu en fait du libéralisme. Et qui stipule que les phénomènes sociaux s'expliquent déjà par la somme des choix individuels, et qu'un choix individuel repose justement sur un calcul par lequel l'individu va chercher à optimiser ses gains en minimisant le coût de l'action qu'il met en œuvre pour obtenir ce qu'il veut. Alors évidemment, c'est une hypothèse qui stipule que les individus sont rationnels, et ça ne marche pas pour ce qui est de l'axe qui consiste à se droguer, à commencer à se droguer en connaissant les risques. Si on se drogue en connaissant les risques, alors il est ici question peut-être plutôt de la prise de drogue dure, évidemment le calcul, on vient de le voir, n'est pas un calcul rationnel. Et c'est justement ça qui peut être intéressant pour la philosophie ou pour la sociologie. Qu'est-ce qu'on fait quand on choisit quelque chose qui n'est pas avantageux à long terme, ou même à terme assez court, en fait. Alors, peut-être que... Alors, comment expliquer ce phénomène ? Voilà, c'est la question qui m'intéresse. Alors, peut-être précisons quand même les choses, parce que on peut dire que le drogué ne savait pas, qu'il se croyait plus fort, qu'il pensait qu'il allait réussir à contrôler, et c'est vrai, c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Mais je m'appuie donc sur les analyses de Patrick Farrow, dont j'ai mis un texte pour ceux qui ont la brochure. Donc, il y a un sociologue qui s'est intéressé à la pratique de la drogue. Il a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie pratique de la drogue ». Et en fait, il a construit sa théorie à partir d'observations pendant de longs mois des pratiques de drogués à New York et à Paris, et aussi surtout sur des entretiens avec ces personnes au sujet de leur propre pratique et du sens de leur pratique à leurs yeux. Et en fait, il dit que dans la plupart des cas, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que le drogué sait ce qu'il fait. Il sait. Certains sont dans l'illusion, mais la plupart savent. Ils savent et donc ils choisissent. Donc d'un côté, on ne peut pas faire une explication purement déterministe, c'est-à-dire le pauvre drogué se drogue parce qu'il est malheureux, parce que la société est méchante avec lui, parce qu'on est dans un contexte social stressant et angoissant. Ça peut exister pour certains usagers, mais peut-être les plus faibles, peut-être les plus jeunes, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Il sait ce qu'il fait. Et en même temps, il veut, alors que très vite, il ne voudra plus. Il devra se donner sa dose. Et il veut parce que c'est une fête, c'est un plaisir. Patrick Farrow insiste là-dessus. On va se faire une fête. Alors, il prend un certain nombre d'expressions géniques dans le texte que j'ai distribué. On va se faire une fête, on va se faire un plaisir. C'est réservé à des happy few, à un petit nombre de gens qui se sentent privilégiés de connaître ce bonheur-là. Au départ, c'est ça. Et donc, voilà. Et ce phénomène, philosophiquement, m'intéresse parce qu'il est rattaché, notamment par Philippe Farrow, ce sociologue ou d'autres, à ce qu'on a appelé en philosophie contemporaine la défaillance de la volonté ou la faiblesse de la volonté, qui est en fait étudiée par Aristote. C'est la philosophie contemporaine qui fait référence à ce vieux concept qui est déjà présent chez Aristote. Concept d'akrasie, akrasia, si on transcrit le grec, et que Philippe Farrow appelle accident de la liberté. Alors c'est un vieux débat qui commence avec Platon et Aristote. Platon pensait que personne ne peut choisir volontairement le mal. Nul n'est méchant volontairement, nul ne peut être pervers volontairement. Donc en fait, on pourrait dire que le drogué se drogue parce qu'il est dans l'illusion. Voilà. Mais c'est justement une explication trop simpliste. Le drogué sait ce qu'il fait, il sait que ça n'est pas le meilleur, et pourtant il le fait. Et donc critique Platon en disant que il n'est pas vrai dans tous les cas que nul n'est méchant volontairement. On peut choisir le mal pour le mal, et on le choisit librement. Et on peut choisir surtout le mal qu'on se fait à soi-même. On peut choisir de se faire du mal à soi-même. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème de philosophie, parce que du coup, la question c'est, est-ce que donc on choisit librement le mal ? Est-ce qu'on peut légitimement le faire ? C'est une faculté que l'on a, mais est-ce que c'est un droit ? Est-ce qu'on peut revendiquer le droit de se faire du mal à soi-même ? Et est-ce qu'on peut demander que l'État n'est pas à interférer, n'est pas à nous empêcher, si on le souhaite, de se faire du mal à nous-mêmes. Alors, juridiquement, ça correspond, vous savez, à la différence entre le droit liberté, droit de faire quelque chose, donc on a le droit de, est-ce qu'on a le droit, on peut aller plus loin, le droit à, est-ce qu'on peut aller jusqu'à demander le droit à pouvoir se nuire à soi-même ? Bien sûr, c'est vrai pour les drogues, c'est vrai pour le suicide, c'est vrai pour un certain nombre d'actes qui sont en ce moment plutôt dans le débat. Donc est-ce qu'on peut aller jusqu'à demander à l'État d'assurer de, de, de ne pas interférer dans notre droit de, voire d'assurer notre droit à nous nuire à nous-mêmes. Alors, je n'ai pas tellement le temps, là, je vais essayer d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Donc vous pourrez aller voir le texte d'Aristote, que j'ai mis pour ceux qui ont la plaquette, le texte. Donc c'est un texte qui est extrait de l'Éthique à Nicomaque, donc le grand traité d'éthique d'Aristote, où Aristote se demande justement ce qu'est un acte volontaire, et du coup quel acte va être moralement et juridiquement, puisque pour Aristote il n'y a vraiment pas de séparation entre le moral et le juridique, donc quel acte est volontaire, donc quel acte va pouvoir être moralement et juridiquement punissable, répréhensible. Et il se demande si l'alcoolique est responsable de son addiction, même si ce n'est pas le terme. Et il dit que oui. Il dit que oui, parce qu'il était dans l'ignorance, mais c'est une ignorance volontaire. Vous pourrez aller voir le texte. C'est une ignorance volontaire. Alors il dit, certes, maintenant dans l'état où il est, il ne peut plus revenir en arrière. Donc il y a évidemment une défaillance de la liberté, une défaillance de la volonté, mais il est responsable d'avoir pris cette mauvaise habitude. Et donc, à ce titre, il est moralement et légal et pénalement responsable. Alors, bon, moi, je laisse la question ouverte, mais du coup, je voudrais, pour terminer, poser le problème de la loi. Est-ce que cette faculté de se nuire à soi-même, dans les addictions, dans la drogue, est un droit légitime de l'individu, et à quel qu'est-ce qui est légitime que l'État limite ce droit ou l'interdise à jouissance. Alors bon, trois pistes. Pourquoi est-ce qu'on interdit l'usage l'usage des drogues? Premièrement, ce qui est le plus souvent invoqué, c'est la nécessité de contrôler. Donc il y a plusieurs manières pour l'État de contrôler ses pratiques et ce commerce. Et le système dans lequel nous sommes actuellement, c'est un système de prohibition, d'accord? Donc l'interdit qui touche donc les drogues, même les drogues dites douces, mais pas l'alcool. Alors si vous voulez, on pourra revenir sur cette question-là. Comment distinguer ces produits? On sait que ça peut poser pas mal de problèmes. Simplement, je fais juste une parenthèse. Il y a quand même une différence entre des produits qui sont fabriqués pour le plaisir et puis pour l'addiction, puisqu'en fait, c'est ce qui fait que le commerce de la drogue est si lucratif, et des produits dont l'usage peut être modéré, hein, ce qui n'est pas forcément le cas des drogues dures. Et donc le vin par exemple n'est pas fabriqué pour produire des alcooliques, même si par ailleurs il peut y avoir des alcooliques à cause du vin, hein. Alors contrôler donc le système de prohibition, alors il est critiqué aujourd'hui selon deux axes. Tout d'abord une critique libérale voire libertaire, c'est-à-dire que on interdit. Enfin, vous savez que selon la vision libérale de la politique, l'interdiction ne se légitime qu'au nom de la défense de la liberté. Et donc, on ne comprend plus pourquoi on ne comprend pas dans cette optique-là pourquoi une pratique privée, une pratique de consommation privée, pourrait être interdite dans la mesure où elle ne nuit pas à autrui. Par exemple, il n'y a pas contrainte sur un mineur, etc. Bien sûr. Donc, alors si par exemple un des tenants aujourd'hui d'un philosophe français contemporain, c'est Ruben Ogien, O-G-I-E-N, qui d'ailleurs se positionne sur d'autres sujets, hein, de la même manière. Pour lui, en fait, réglementer cette consommation privée, la réglementer, l'interdire certainement, mais même la réglementer, c'est un abus de pouvoir paternaliste et moralisateur. Et il pense qu'en matière de morale et en matière pénal, on ne peut pas dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même, mais plutôt ne fais pas aux autres ce que toi tu peux te faire à toi-même. Alors, voilà, c'est l'adage de Ruben Ogien. Ne fais pas aux autres ce que toi tu peux te faire à toi-même. Donc toi tu as le droit de tenir à toi-même, mais tu n'as pas le droit de le faire aux autres. Donc on voit bien qu'ici en fait ce qui est souverain c'est le consentement. Le consentement de l'individu est souverain et donc on peut, la loi ne doit pas, absolument pas, interférer avec cette liberté-là. Il y a une critique plus pragmatique, mais qui est aux antipodes, du coup, qui n'a absolument pas le même sens, critique du système de prohibition, et qui dit que, en fait, la prohibition n'a pas marché. La prohibition n'a pas marché si le but, c'était de, d'endiguer le phénomène de la consommation massive de drogue. Voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que vraiment le but de la loi... C'est la question que je laisse ouverte. Est-ce que vraiment le but de la loi, c'est de modifier la société est-ce que parce que ça n'a pas marché, on doit forcément, du coup, prendre l'option inverse, qui serait de libéraliser ou en tout cas de dépénaliser je ne le traite pas, parce que je ne vais pas avoir le temps. Deuxième axe, après contrôler, et les partisans de la dépénalisation ou de la libéralisation même, affirment dans ces cas-là, puisque ça n'a pas marché, on va libéraliser ou dépénaliser parce que ça permettra à l'État de mieux contrôler. Donc c'est un argument favorable à la dépénalisation, mais attention, non favorable à la consommation. Hein, justement parce que la drogue est nuisible, et parce qu'il faut empêcher le plus possible de gens de se nuire à eux-mêmes, ou en tout cas limiter cette nuisance à soi-même, eh bien, il faut que l'État puisse contrôler, et donc éviter que ce soit un marché parallèle, un marché noir. Voilà, donc ça c'est le contrôle. Deuxième axe, la loi, elle peut sanctionner, bien entendu. Elle sanctionne, elle punit, si on considère, comme le faisait Aristote, mais on voit bien qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette logique juridique-là, mais si on considère que le drogué est moralement responsable de son acte. Donc là, l'enjeu, c'est deux conceptions de la loi. Voilà. Est-ce que la loi, on la considère simplement selon une conception libérale, la loi, elle vise simplement à éviter que les libertés ne se nuisent les unes aux autres, mais surtout, le principe, c'est la non-ingérence de l'État dans la vie des individus, au maximum. Soit on a une conception plus républicaine de la loi, issue plutôt, par exemple, de Rousseau, des philosophes politiques tels que Rousseau, et on va considérer que la loi, elle énonce un bien commun. Voilà. Et le bien commun, c'est d'abord le bien de chaque individu. Je laisse la question ouverte, mais ça me permet de terminer sur la question de la protection. La loi, elle protège le plus faible dans un état de droit. On sait bien que un certain nombre de menaces, enfin, il y a des menaces de domination qui pèsent sur les individus les plus faibles, notamment les mineurs. En l'occurrence, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas protéger par l'interdit le mineur? On sait que d'ailleurs l'action de la dépénalisation ne s'oppose pas pour le mineur, puisqu'il est de fait pas. Il n'est pas responsable pénalement, de fait. Donc, mais du coup, alors, l'argument, c'est de dire que l'interdit, il dissuade. Voilà, il y a un sens symbolique de l'interdit. Alors, pourtant, l'interdit est transgressé. Peut-être que même, c'est parce que c'est interdit qu'on se drogue. C'est souvent le cas. Mais il me semble quand même que même s'il est transgressé, il est connu. Voilà, on transgresse, mais on sait qu'on a transgressé. Et donc on sait par là qu'on a transgressé quelque chose qui était signalé comme dangereux, comme néfaste. Par exemple, je termine sur cet exemple, dans le débat sur la dépénalisation du cannabis, il y a eu plein de solutions qui ont été proposées, et notamment la contraventionnalisation, donc faire passer l'usage du cannabis d'un délit à une contravention, donc ce qui aurait permis une réactivité plus grande de la part des services de police qui pourraient contraventionnaliser le consommateur. Et souvent, l'argument contraire à cette idée, c'était de dire que symboliquement, on donnait l'impression que le cannabis était moins dangereux. que les autres substances, parce que lui, il avait un régime de faveur. Et donc, il me semble que là, dans cet exemple, on voit bien qu'il y a un... Peut-être que c'est, ça aurait été plus efficace, peut-être que ça sera plus efficace du point de vue du contrôle, mais symboliquement, on voit bien que l'interdit, il signale le danger, même si par ailleurs l'interdit peut être transgressé. Donc je vais conclure, pardonnez-moi, je suis vraiment trop longue. Alors, je dirais que je vais conclure par rapport à cette idée de force symbolique de la loi. Certes, les systèmes de pénalisation, de prohibition ne sont pas efficaces si on attendait une éradication du phénomène, mais en même temps, faut-il attendre de la loi plus que ce qu'elle peut donner ? La loi ne peut pas tout. Il me semble que pour éviter la drogue ou les addictions chez un individu, on a, d'abord, il faut attendre plutôt pouvoir lui donner une éducation. Une éducation, une information préventive, mais aussi la recherche de la tempérance, ce qu'Aristote appelait la tempérance, précisément pour maîtriser sa propre volonté. Et puis, il me semble qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental, c'est surtout lui donner des raisons d'espérer, des raisons de vivre. Parce que si l'on en croit justement ce qu'on lit chez les sociologues, le drogué, il cherche le bonheur, en fait. Il cherche le bonheur, il se trompe, il fait un mauvais calcul, mais il cherche... un plaisir intense qu'il pense être un bonheur, certes dangereux, certes qui va l'amener à son malheur, mais en même temps, ça semble tellement un bonheur tellement grand que finalement on est prêt à tout sacrifier pour ce bonheur-là. Voilà, donc je pense que la loi ne donnera pas tout ça. C'est une éducation qui peut le donner à ceux qui pourraient devenir des drogués ou des personnes addictives, mais pourtant. Est-ce que le rôle de la loi, ce n'est pas de permettre que cette éducation puisse se faire, que cette éducation et aussi peut-être que cet encadrement des personnes déjà toxicomanes puisse se faire. Et il me semble, par exemple, personnellement en tant qu'éducatrice, que si la loi n'indiquait plus l'interdit, j'aurais du mal à expliquer qu'il y a danger à se droguer. J'aurais l'impression d'être dans une situation de contradiction, à vivre dans un pays qui autorise. Pour cependant essayer de contrôler mieux l'usage de produits qui sont reconnus par tous comme extrêmement dangereux. Voilà, je laisse la question ouverte.
Merci. Oui, alors. C'est vrai que pour un juriste, il peut sembler assez étonnant qu'il y ait finalement un droit de la drogue, parce que je vais, pour ma part, centrer mon propos sur les stupéfiants. Sinon, ce serait trop long d'aborder l'ensemble des addictions et des produits ou autres qui sont prohibés ou qui sont encadrés par le droit. Il peut donc sembler paradoxal de restreindre la liberté de quelqu'un alors même que ce quelqu'un est majeur, qu'il n'est pas irresponsable précisément au sens juridique du terme. Et la question est de savoir si finalement c'est vers lui que l'on regarde ou vers la société. Parce qu'on sait très bien qu'un toxicomane, eh bien, cela d'abord engendre un coût sanitaire, cela engendre un coût économique et cela engendre aussi un risque de désordre. C'est sans doute entre la liberté et ce risque de désordre que la loi essaie d'arbitrer. Alors moi, quelques rappels simplement pour essayer peut-être de fixer les choses, parce qu'il n'y a pas forcément que des juristes, et de fixer en tant que pénaliste et assez modestement une forme de cadre. D'abord, ce qu'on appelle finalement les drogues. Alors, la drogue, je cherchais un peu les définitions, j'en ai trouvé une qui est rappelée par Francis Caballero dans son ouvrage Le droit de la drogue, qui est celle communément admise. Et drogue, toute substance susceptible d'entraîner une toxicomanie. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va mieux aller parce que j'ai un peu de mal avec un micro. Donc, c'est une substance susceptible d'entraîner la toxicomanie. Alors, pour définir la toxicomanie, je suis allé chercher, d'ailleurs, ce que tout le monde fait, un texte, plutôt un rapport, qui est un rapport sans doute le premier assez fondamental, qui est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, qui est un rapport de 1964, qui est le 16e rapport. Ce rapport, le premier, va mettre en lumière ce qu'on appelle la dépendance physique, la dépendance psychique et la tolérance. C'est trois caractéristiques des drogues. Dépendance physique, on comprend bien, c'est-à-dire que dès que vous êtes privé de drogue, eh bien vous avez des manifestations physiques, qui fait que vous avez absolument besoin d'essayer de vous en procurer de nouveau. La dépendance psychique, eh bien c'est la même chose, mais du point de vue psychique. Et la tolérance, c'est en fait l'habitude qu'a l'organisme de pouvoir ingérer certains produits. Alors, je simplifie, j'ai la définition exacte sous les yeux, mais j'essaye de simplifier. La tolérance, en réalité, beaucoup plus que cette habitude, ce qu'elle met en avant et ce qu'elle révèle, c'est que vous avez tendance à accroître la quantité de drogue pour retrouver les effets premiers. Parce que comme vous vous y habituez, il faut augmenter. Alors, ça, c'est le premier point sur ça. Ça me semble intéressant. Dans ces textes, il y a, dans les autres textes, vous avez une convention internationale, qui est une convention qui est importante, qui est la convention, je le dis, parce que pour ceux qui veulent aller voir, qui est la convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui a été d'ailleurs modifiée après par un protocole de Genève de 1972. Sans entrer dans les détails, pour vous donner des notions, alors je me sens bien médical, parce que là, auquel je suis est très prudent par rapport à ces médicales, mais ce qui est communément admis sur les effets des drogues essentielles. Il y a un tableau, ce tableau on l'a eu notamment dans le rapport Pelletier de 1976 et dans d'autres, et il est à peu près toujours repris, il est sans doute exact. On va classer les stupéfiants par en trois catégories, enfin on va voir comment comment on peut les classer, dépendance psychique, dépendance physique et tolérance. C'est pour ça que je définissais tout à l'heure ce que c'était. Quand vous prenez de l'héroïne, le maximum c'est 4 croix dans le tableau. L'héroïne, la dépendance psychique, 4 croix. C'est quand même au maximum. La dépendance physique, l'héroïne, 4 croix. La tolérance, 4 croix. Et vous voulez, en clair, l'héroïne, il y a une dépendance physique maximale, une dépendance psychique maximale, et une tolérance maximale. C'est-à-dire qu'en plus, vous augmentez les produits, en quelques heures, un héroïne peut être accroché. Je crois que vaut mieux le dire, parce que ça permet de savoir de quoi on parle. Deuxième point, pour ce qui est de la cocaïne. Dépendance psychique, 4 croix. Dépendance physique, 0. Tolérance, 4 croix. Donc là, on n'a pas de dépendance physique. Le hashish et le cannabis. Alors, je rappelle que le hashish, c'est un dérivé, un dérivé du cannabis. Vous pardonnerez l'imprécision des termes. Hashish, dépendance psychique, 2 croix sur 4. 0 pour la dépendance physique et la tolérance, 0. Le cannabis, 1 étoile pour la dépendance psychique, 0 pour la dépendance physique, 0 pour la tolérance. Donc, on a ici pour le cannabis, a priori, quelque chose de plus mesuré. Alors, encore une fois, c'est à relativiser, parce que ce sont des tableaux qui sont peut-être un peu anciens. Il faudrait que les médecins soient peut-être plus précis, mais c'est très compliqué, effectivement, d'avoir une idée médicale sur la question, ou pharmaceutique sur la question. Et vous avez, par exemple, l'alcool, c'est 3 croix pour la dépendance psychique, 3 croix également pour la dépendance physique, 3 pour la tolérance. Le tabac, c'est 2, 0 et 2. Et on est dans quelque chose qui est assez important. Alors, sur un plan historique, je rappellerai quand même qu'on ne vient pas tout à fait de nulle part, puisqu'on oublie assez fréquemment qu'il y a eu des monopoles fiscaux pour le cannabis. On a eu, par exemple, alors, ça fonctionnait avant, la colonisation française, enfin la colonisation française est passée par là et elle a récupéré ce monopole. Le monopole tunisien, par exemple, il a fonctionné sous l'administration française entre 1881 et 1954. Pas tout à fait rien. Le monopole marocain entre 1914 et 1952. C'est les sociétés publiques administratives qu'on avait. Le monopole de ça, ça s'appelait le Takrouri en Tunisie et le Kif au Maroc. C'était ça au départ, c'était le cannabis, mais il y avait des monopoles. C'est-à-dire qu'on en tirait fiscalement des avantages. Ça mérite quand même d'être dit, parce que c'est pas inintéressant de voir l'évolution. Alors, pour l'opium, il y avait une régie indochinoise de l'opium. Elle a été systématisée en 1899 par Paul Doumer. Et donc elle a fonctionné pendant assez longtemps. Elle a fonctionné assez longtemps. Alors sur les drogues, alors, il y a divers types de drogues, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais enfin, si vous voulez, on a. Les opiacés, c'est l'opium, c'est le sucre du pavot, l'opium. Avec l'opium, vous avez la morphine, qui est un alcaloïde, un dérivé de l'opium, et donc les pavots. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la codéine. C'est aussi intéressant parce qu'on parle souvent de drogue, en réalité c'est vrai qu'il y a un peu, je veux dire, drogue dure, drogue douce, c'est pas tout à fait la même chose. On a donc évidemment l'héroïne, hein, l'héroïne, on sait très bien que c'est à base de pavots. On a ensuite le coca et sa dérivée. Le coca, vous voyez tout ce que c'est, hein, ce sont les feuilles qu'on peut mâcher sur les plateaux sud-américains. Et de là, bah, il y a la cocaïne, hein, qui est tirée de ça. Indépendamment de la cocaïne, vous avez après, je ne vais pas reprendre toutes les drogues, mais vous avez le cannabis. C'est la plante du cannabis et sa résine, c'est le hashish. Ce sont car le cannabis, c'est dérivé. Après, il y a des hallucinogènes et puis il y a des drogues de synthèse qui sont apparues assez récemment. Alors, sur le plan de la loi, le problème de la loi, si vous voulez, à mon avis, depuis plusieurs années, c'est que c'est devenu davantage une recherche d'affichage politique qu'une recherche et une volonté de vouloir vivre commun. La loi, normalement, c'est un vouloir vivre commun. Aujourd'hui, on constate qu'à chaque fait divers, il y a une loi, et à chaque fois, c'est à qui, bah, finalement, jouer les batteurs d'estrade, alors que la loi est faite pour organiser la société, mais pour organiser les rapports entre les gens et les citoyens que nous sommes. Et pas seulement les citoyens, parce que ça regarde aussi les mineurs. Il y a peut-être une réflexion à donner sur ce qu'est la loi aujourd'hui, et peut-être y associer davantage des gens qui sont, par exemple, des philosophes, par exemple aussi des gens de littérature ou autres, pour qu'on évite sans doute ces emballements que l'on constate depuis plusieurs années, et qui sont des emballements qui se traduisent notamment en matière pénale par des lois qui ne sont pas forcément appliquées, et qui vont faire, vous voyez, je lisais aujourd'hui un journal, je crois qu'en 2006, entre 2006 et 2010, par rapport à la période précédente, il y a eu, me semble-t-il, je disais peut-être enchaîné pour ne rien cacher, j'avais connaissance des chiffres, je crois qu'il y a eu, il y a 12 000 années de prison de plus qui ont été infligées en France. Pour indiquer simplement que, lors de gesticuler, ça a aussi des traductions sur les gens. Alors, sur les stupéfiants, il faut ici peut-être reprendre précisément ce que sont les stupéfiants sur ce terrain-là. Alors, les stupéfiants en France, c'est la loi de 70 qui a la première défriché le terrain. Je vais parler de l'usage pour vous dire quand même quelles sont les peines à tout faire. Parce que finalement, on parle beaucoup de la consommation, de l'usage, tout ça n'est pas grave. Moi, je vais vous lire ce qu'est le code pénal, plutôt le code de la santé publique. Parce que les textes, ils sont secs, mais ils disent ce que ça peut donner quand vous avez quelqu'un qui se retrouve pris dans précisément le cadre et les règles de la politique pénale. L'article L3421-1 du Code de la santé publique. L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire d'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs, exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée, etc., les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement, etc. On a aussi, au terme de l'article, ça renvoie également à l'article 706.33 du Code de procédure pénale. On peut, en cas de poursuite pour usage, on peut fermer des lieux qui sont ouverts au public. Donc, c'est les sanctions économiques qui sont très importantes. C'est-à-dire que l'usage n'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait innocent. Parce que ça a des conséquences. Dans une boîte de nuit, si vous fumez, si vous consommez de la cocaïne, eh bien, une décision judiciaire peut parfaitement aboutir à la fermeture de l'établissement pendant quelques temps. Sans même parler après de fermeture administrative. Il y a évidemment des peines complémentaires. Je rappelle, indépendamment de l'usage, c'est pour ça que je veux quand même redonner quelques... Je n'ai pas la prétention de décrypter et de décrire tout le code pénal, mais donner quelques repères, hein, pour dire que ce n'est pas tout à fait rien et que quand on parle de liberté, il faut savoir qu'on s'expose aussi. Après, moi, je n'ai pas de regard moral, mais je dis, voilà ce qu'est la loi. Le juriste que je suis, la première chose qu'il fait, il interroge la loi pour savoir quelles sont les conséquences. Deuxième point sur, ce qui est sans doute peut-être plus gênant, la provocation à l'usage. La provocation au délit prévu par l'article, c'était l'usage, ou l'une des infractions prévues, etc., alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et puni des mêmes peines, la provocation, etc. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le délit de provocation à l'usage des stupéfiants, d'abord on a considéré, qu'on appelle à considérer que ce n'est pas incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne, qui est un article absolument essentielle. Hein. Vous voyez, repris sans arrêt sur la liberté d'expression, qui consacre la liberté d'expression, notamment, il a organisé un peu mieux le fait qu'en matière politique, on pouvait aller beaucoup plus loin, ou en matière syndicale, on pouvait aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont en cause. Bien là, une cour d'appel a estimé que le fait de provoquer, ben, c'était pas suffisant. Le fait même, dans un meeting politique, parfois, de tenir des discours très favorables, ça peut tomber sous le coup de cette notion de provocation. Tout ça n'est pas tout à fait le même. Alors, vous avez aussi des gens qui peuvent être signalés à l'autorité judiciaire. C'est assez quelque chose qui se fait fréquemment. C'est l'injonction thérapeutique pour l'usage. Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale. Ça veut dire quoi? En fait, après, c'est qu'on va saisir un médecin, que le médecin va voir si oui ou non vous avez besoin d'être soigné ou pas, et puis qui va ensuite faire un rapport et qui peut vous dire bah, il va falloir faire ceci ou cela, et vous remettre à des gens spécialisés. L'injonction thérapeutique, c'est pas non plus tout à fait rien d'un point de vue juridique. Je l'indique parce qu'on dit souvent que l'usage, finalement, ça n'est rien. Non, l'usage peut avoir des conséquences directes et indirectes qui sont tout à fait importantes. Alors, sur la consommation de stupéfiants, par ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'alcool, en disant finalement, l'alcool, c'est en fait quelque chose qui pourrait faire excuser quelqu'un, de même que les stupéfiants, c'est l'inverse. Les juristes sont ici, le savent bien, c'est au contraire une circonstance aggravante des infractions. L'ingestion d'alcool, et ici le fait d'être dépendant de stupéfiants au moment, par exemple, où on prend le volant. Code de la circulation, code de la route, circulation routière, l'article L235-1 du code de la route, eh bien, lorsque vous êtes, pour reprendre le texte exact, toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine, important parce que les tests buccaux ne sont en général pas très fiables, alors qu'il résulte d'une analyse sanguine, qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Vous voyez, là aussi, c'est pas complètement rien. Et c'est aussi une peine, une circonstance aggravante, extrêmement lourde d'ailleurs, extrêmement lourde, en matière d'homicide involontaire, lorsqu'on conduit avec un véhicule, eh bien, de 5 ans, vous passez à 7 ans si vous êtes sous l'emprise de produits stupéfiants. Si vous créez un accident, et si en plus vous avez de l'alcool, alors ça fait 2 circonstances aggravantes, c'est encore plus. Pour les blessures inférieures ou supérieures, pour moi, c'est la même chose. Vous avez 222-19-1, 222-20-1, c'est la même chose. Pour les agressions sexuelles, ou même pour le viol par exemple, si vous êtes sous l'emprise de produits stupéfiants, c'est 222-24 du code pénal, eh bien c'est 20 ans au lieu de 15 par exemple. Et pour les autres agressions sexuelles, je vous l'indique, c'est 222-30 ou 222-28, c'est pareil, ça augmente systématiquement. De la même manière pour les violences, 222-12 14e, 222-13 14e, stupéfiants, augmentation du tarif, si je puis dire, pénal de la peine encourue. En matière de sport, vous avez aussi, ça c'est assez connu, le code des sports, le dopage, c'est l'article L232-9 avec des sanctions pénales qui sont L232-25 et L232-26. Alors, ce qui est un peu malheureux dans le texte, c'est que je suis immédiatement après les cas de dopage animal. Alors, j'aurais préféré que je distingue un peu plus nettement ce qui revêt de l'homme et de l'animal. Donc, évidemment, on pense aux paris en matière de PMU, de chien, que sais-je encore, de combat de souris ou de vers de terre, ou ce que vous voulez. Mais j'aurais quand même préféré assez nettement qu'on distingue l'homme qui ne me paraît pas être un animal comme les autres, à tout le moins pas tout à fait comme les autres. Le texte ici ne me semble pas très heureux quand on le lit de manière continue. Dernier point, ici évidemment, et je le cite pour mémoire, le problème évidemment à quoi on pense, c'est le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, on dit souvent qu'il y a une économie souterraine. Le problème de l'économie souterraine, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, si cette économie n'existe pas dans un certain nombre de zones de ce pays, je ne suis pas certain que le désordre ne soit pas pire que celui actuel. Ça aide aussi les gens à survivre. Il faut aussi poser des questions à un moment donné, et ne pas d'ailleurs forcément retourner des réponses, au moins poser ces questions. Dans le trafic de stupéfiants, là, on a absolument toutes les gammes de peines, elles sont très élevées. C'est sans doute parce que ça correspond à une valeur sociale éminemment protégée, qui est celle de faire que des gens ne soient pas tentés par les produits stupéfiants, puisque dans le code pénal, le trafic de stupéfiants, il est prévu au niveau 2 du code pénal, des crimes et délits contre les personnes. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est des crimes et délits contre les personnes, les stupéfiants. C'est pas inintéressant de voir, juste avant, on a des crimes et délits contre l'espèce humaine, donc c'était dans le génocide et contre l'humanité, après on a des crimes et délits contre les personnes. Le titre 2, c'est des atteintes à la personne humaine, dans ce livre 2. Dans les atteintes à la personne humaine, vous avez le chapitre 2, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, et à la section 4, le trafic des stupéfiants. Donc ça en dit long aussi, là, je trouve que l'intitulé est toujours excellent, parce qu'on passe des crimes et délits contre les personnes, des atteintes à la personne humaine, des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, qui est d'ailleurs tout à fait rigoureux hein, comme classification, et là, on a les trafics de stupéfiants, on va de 222-34 à 222-51 du code pénal. Pour vous dire, il y a les circonstances aggravantes de bande organisée, les peines, c'est 10 ans, 30 ans, et c'est perpétuité. Donc, c'est quand même des peines extrêmement lourdes, à mon sens d'ailleurs parfaitement disproportionnées, mais c'est un avis personnel, les peines du code pénal sont beaucoup trop élevées, et les peines qui sont infligées dans les tribunaux, les cours, les cours d'assises sont infiniment trop élevées, mais là, c'est un avis, c'est le mien, je m'écarte de la rigueur du propos, mais c'est un avis. Après, il faut se poser la question de la prohibition. J'entendais avec beaucoup d'intérêt ce qui était dit par les philosophes, et on devrait, à mon avis, beaucoup plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, les associer aux réflexions. Parce que pour l'instant, le problème de la réflexion, c'est un peu psychomaniste, c'est qu'elle est laissée à des gens qui, finalement, ont un intérêt direct à ce que les choses continuent ou ne continuent pas. On a un intérêt direct, et souvent, on a des habitudes. Parce qu'on est praticien, on a des habitudes. Il vaut mieux rompre avec les habitudes et donner à des gens des outils de réflexion. Ces outils de réflexion, dans la vie, il faut les chercher en dehors des cercles habituels, juridiques, policiers, et peut-être aller voir vers des sociologues, vers des philosophes, et des gens capables d'une réflexion peut-être plus élevée que celle qui est la nôtre, qui consiste à finalement accumuler des expériences individuelles et à prétendre ensuite en tirer des enseignements collectifs, ce qui est une erreur d'un point de vue scientifique. Alors, simplement, j'ajoute aussi quand même, parce que qu'il y a des dispositions tout à fait spécifiques aussi en la matière, des dispositions spécifiques qui sont celles aussi de l'incitation, alors c'est réprimé par le code pénal, de l'incitation à l'usage de drogue pour des mineurs. Et c'est heureux, parce que ce que l'on peut tenir comme discours pour des adultes, au sens de notre liberté, on peut évidemment plus difficilement tenir pour des mineurs. C'est évidemment plus compliqué de tenir pour des mineurs, parce que c'est ce que disait la Corbière, hein, c'est un mot qu'on connaît tous, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui a franchi. Le mineur, il est faible, il a besoin d'une protection. Je rappelle que la Convention de New York dit d'ailleurs, qui est la Convention sur la protection des enfants, dit qu'en toute matière intéressant l'enfant, c'est-à-dire en toute matière, en divorce, ailleurs, partout où vous voulez, devant la justice des mineurs, eh bien, on doit privilégier l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui est écrit, par exemple, en matière de mineurs, l'ordonnance de 45, qui est un texte magnifique, fait que aujourd'hui le primat, c'est l'éducatif plutôt que le répressif. C'est-à-dire que quand un enfant commet quelque chose, la première des questions qu'on va se poser, c'est y a-t-il une possibilité éducative ? Et après seulement, on passe à la répression. Et on le retrouve en miroir inversé dans le code pénal, parce que, évidemment, en matière de stupéfiants, on va protéger davantage les mineurs. Et on va également réprimer l'incitation à l'usage, et également à l'incitation au fait que les mineurs puissent servir dans le trafic. Et ça me paraît, d'un point de vue de nos valeurs, parfaitement heureux. Le mineur doit être protégé, c'est une évidence. C'est quand même le minimum de ce qu'on peut attendre d'une société organisée, me semble-t-il. C'est donc tout à fait différent de ce qu'on peut se poser comme question sur la dépénalisation ou la légalisation contrôlée, parce que la dépénalisation, elle a quand même un problème. C'est que, et une contradiction un peu irréductible, c'est que vous prétendez faire que la demande ne soit pas pénalisable, mais à l'inverse, que l'offre continue à l'être. Un peu une difficulté, si vous voulez. Forcément, il y a une question d'échange, à un moment donné, il faut peut-être être beaucoup plus clair. Alors, sur les quelques chiffres qu'il pouvait y avoir, dans les derniers éléments que j'avais sur le coût de la répression aux États-Unis, coût économique, parce qu'il faut aussi parler économique, d'après les chiffres de 2010 d'un organe assez sérieux, le coût de la répression aux États-Unis par an, c'était 34,3 milliards d'euros. Pas tout à fait rien, sur le plan d'une année quand même. Pas tout à fait rien. Ensuite, sur les interpellations en Europe, de ce que l'on avait, sur les interpellations en Europe, eh bien, les interpellations, les trois quarts des interpellations pour usage de stupéfiants, c'était dû au cannabis. On aurait eu, paraît-il, un recul d'un certain nombre de consommation, d'un certain nombre de drogues l'année dernière, et par contre, une augmentation de drogues de synthèse qu'on maîtrise assez mal, puisqu'il y a des tas de créations de drogues nouvelles. Alors, pour ma part, et sans être trop long, je voudrais simplement ici, j'avais prévu de faire quelque chose sur l'usage, pour vous dire que l'usage aujourd'hui est très souvent pris en main par le procureur de la République dans l'article 41 du code pénal, du code de procédure pénale, pardonnez-moi, parce que le procureur de la République, à ce moment-là, va classer sans suite ou classer avec rappel à la loi ou même il va demander à ce qu'il y ait des stages de sensibilisation quand on a un usager. Mais pour l'usager aujourd'hui, le plus souvent, c'est les ordonnances pénales, c'est-à-dire des choses qui sont sans contradiction et que quelqu'un a 45 jours à faire de contester, qui vont lui donner une peine, un stage, ce que l'on veut, et ça, c'est assez dangereux. Parce que la loi de 2007, qui est la loi de 2007, et il y a une excellente étude qui est parue, je vous l'indique, par quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Jean, qui est avocat général à la Cour d'appel de Paris, et qui est professeur à Poitiers, dans la revue qui s'appelle Agi pénal 2010, page 182, sur les transformations de la politique criminelle envers les usagers de stupéfiants depuis la loi du 5 mars 2007. Parce qu'on a compris que mon propos, moi je m'intéresse surtout à l'usager. Pour le reste, je m'y intéresse évidemment, mais c'est peut-être un autre cadre que celui-ci. Donc vous avez, dans ce cadre-là, précisément pour l'usager, une orientation, parce que malgré tout et de plus en plus, sur les gens interpellés par exemple, au niveau policier, on a, dans les gens qui ont interpellé, l'usage représente l'essentiel des interpellations. 112 923 personnes ont été interpellées en 2007 pour usage simple à un service de police, de gendarmerie, des douanes. C'est-à-dire 112 923 personnes, ce qui est pas, là aussi, c'est considérable. 11 548 pour usage revente, 1998 pour trafic local, etc., etc. Alors, j'ajoute également que le code pénal prévoit de manière assez particulière, un délit spécifique pour celui qui vend à quelqu'un en vue de sa consommation personnelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez simplement une petite quantité, vous avez un texte spécifique qui est important, parce que c'est moins sévèrement puni, je le dis, parce que ça permet, on a essayé d'introduire quand même certaines nuances, qui ne sont pas évidentes, parce qu'en matière de stupéfiants, notamment sur le trafic, on est quand même plutôt dans la caricature et dans une répression plus azimut, là, il y a une petite nuance qui est imprimée donc, par le code pénal et qui permet de faire que celui qui vend pour l'usage personnel de quelqu'un, il soit moins sévèrement sanctionné, ce qui est heureux par rapport effectivement à les plus petits revendeurs. Alors, ce que je voulais vous lire après, parce qu'on parlait de texte, j'ai mis de côté pour ma part un texte de l'ordonnance Artaud, que j'aime beaucoup, et l'ordonnance Artaud, donc, que l'on connaît tous, et qui... Je vais faire référence ici parce que les autres, on les connaît pour l'essentiel, pour la plupart d'entre eux. Antonin Artaud va écrire une lettre à monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Et il l'écrit après la loi de 1916. La loi de 1916, c'est celle qui a prohibé l'opium. Voilà quelle est cette lettre. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. La loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour les tièges toxicomaniaques de la nation parce que, je cite un certain nombre de choses, septièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur fout la paix. C'est avant tout une question de conscience. La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l'inspecteur usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Tous les bêlements de la charte officielle sont sans pouvoir d'action contre ce fait de conscience. À savoir que, plus encore que de la mort, je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge, et juge exclusif, de la quantité de douleur physique ou encore de l'acuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. Et il va, à la fin de son propos, parce qu'elle est très longue et je ne la lirai pas totalement, à la fin de son propos, dire ceci. C'est la conclusion qui, naturellement, ne peut que réjouir l'avocat que je suis. Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. Rentrez dans vos greniers médicales punaises. Et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier. Ce n'est pas par amour des hommes que tu délires, c'est par tradition d'imbécilité. Ton ignorance de ce que c'est qu'un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. Je te souhaite que ta loi retombe sur ton père, ta mère, ta femme, tes enfants et toute ta postérité. Et maintenant, avale ta loi. C'est la fin, c'était d'Antonin Artaud. Voilà peut-être une façon aussi de dire que bah, il y a la liberté, mais il y a l'ordre, et qu'il faut à peu près arriver à trouver que la société essaie de se situer au milieu de ça, au milieu des révoltes des uns, de la liberté des autres. Et puis de la tentative et la volonté d'organiser l'ordre pour que les uns et les autres puissent vivre à peu près dans une paix relative, sachant évidemment qu'un toxicomane véritable est aussi quelqu'un qui va essayer par tous les moyens de faire en sorte qu'il puisse précisément satisfaire sa toxicomanie. J'ajoute, et ça c'est une expérience personnelle, que depuis qu'on a distribué la méthadone, eh bien, heureusement, un certain nombre de livres de crimes ont en quelque sorte disparu. Moi, il y a quelques confrères sont ici, il y a un certain nombre d'années, on avait un certain nombre de hold-up qui étaient causés par des gens qui n'étaient pas en banque, notamment les arrivées en banque. On a beaucoup moins cela depuis qu'il y a de la méthadone, qu'il y a des médecins et qu'on suit les gens, qu'on les repère davantage. C'est aussi, à mon sens, quelque chose de profitable, pas forcément aux gens eux-mêmes, mais je pense que oui, mais en tout cas à la société.